Merci, Monsieur le Président. Je souhaite évoquer les paragraphes 25 à 29. Nous nous sommes limités jusqu'à maintenant aux paragraphes 23 et 24 dans nos interventions précédentes et j'espérais pouvoir répondre à certains des commentaires qui ont été formulés dans la salle depuis. Monsieur le Président, le Royaume-Uni considère les examens juridiques comme une composante importante du mécanisme de garantie. Nous devons souligner les débats nombreux qui ont eu lieu au sein de ce groupe sur la valeur de ces examens juridiques. Et le principe directeur E renvoie à l'obligation, au regard du droit international, de savoir si l'emploi d'une nouvelle arme ou d'une nouvelle méthode pourrait, dans toutes les circonstances ou dans certaines circonstances, être interdit au regard du droit international humanitaire. Nous prenons note du fait que le paragraphe 25 ne fait pas de référence particulière au paragraphe 26, mais parle plus généralement de l'obligation de s'assurer que ces armes aient la capacité d'être déployées de manière licite. Cela étant dit, dans le paragraphe 29, il faut qu'on parvienne à un consensus sur les considérations pertinentes en ce qui concerne les examens juridiques de ces armes. Nous pensons que c'est possible. Cela étant dit, un certain nombre de références existantes dans le texte à l'heure actuelle ne fonctionnent pas à nos yeux. Certaines délégations, si je ne m'abuse, ont souligné la nécessité d'ajouter des adjectifs, mais cela étant dit, nous ne savons pas dans quelle mesure le fait de prendre en compte les capacités existantes, constitue une directive utile. Il y a eu des propositions pour consommer cette partie. Nous pourrions également envisager la proposition norvégienne qui suggère que l'on fasse directement référence à ce que devraient constituer les examens juridiques en question. Nous ne comprenons pas très bien ce que l'on entend par tasks of the weapons outside of the intended target. Nous suggérons que ce paragraphe, on pense qu'il devrait se concentrer sur la discipline imposée par les examens juridiques, qui place les examens juridiques dans le cadre de leur fonctionnement, des circonstances d'utilisation et de cibles souhaitées. Par conséquent, nous suggérons le libellé suivant, que nous vous fournirons bien évidemment ultérieurement par écrit, et qui, comme nous l'avons indiqué, pardon, nous sommes également tout à fait en faveur de la proposition norvégienne. Donc, les examens juridiques des systèmes d'armes fondés sur les technologies émergentes dans les SALA doivent permettre de savoir si elles peuvent être utilisées conformément au droit international humanitaire applicable au droit international. Et ensuite, on supprimerait taking into account existing capacities and capabilities. Point. Les examens juridiques devraient examiner, entre autres, les performances techniques, le mode de fonctionnement de système d'armes, les circonstances d'utilisation souhaitées et on supprimerait possible tasks et ce sont donc et les types de cibles dès lors que c'est adéquat. Les meilleures pratiques et l'échange de meilleures pratiques entre États pourraient faciliter donc cette évaluation du respect du droit international. Monsieur le Président, nous prenons note de la suggestion concernant la suppression du paragraphe 26, la dernière phrase du paragraphe 28. Nous pensons, quant à nous, que ces évaluations ces paragraphes ont un effet cumulatif, puisque l'on passe de concepts plus élevés à des suggestions plus précises, plus spécifiques. Par conséquent, nous ne sommes pas d'accord pour dire qu'il est nécessaire de supprimer le paragraphe 26. Cela étant dit, nous reconnaissons le défi qui est le nôtre. Nous devons effectivement faire état de progrès dans le cadre du texte qui est le nôtre. Sans vouloir ouvrir le débat, il nous semble que le paragraphe 26 fait référence et est adéquat à la prévisibilité et à la fiabilité de ces systèmes, sans pour autant suggérer que ces considérations soient essentielles ou les éléments fondateurs du droit international. Pour répondre aux délégations qui ont fait référence à ces concepts plutôt comme reflétant donc la déclaration politique du Royaume-Uni. Nous reconnaissons absolument le concept de prévisibilité, de fiabilité. Quant à savoir comment un système peut être géré de telle manière à respecter ses obligations juridiques essentielles. Bien, nous suggérons donc que la dernière phrase du paragraphe 28 s'inscrive plus naturellement dans le cadre des obligations énoncées dans le paragraphe 26 et vienne étayer ces concepts. Par conséquent, nous suggérons de déplacer cette phrase ici. En ce qui concerne l'utilisation non voulue ou les violences non souhaitées, on pourrait supprimer la référence du 26 car cela sape l'idée essentielle du paragraphe selon laquelle il s'agit d'évoquer les principes généraux et fondamentaux du droit international humanitaire. Le paragraphe se lit donc comme suit. Les évaluations de risque et les mesures d'atténuation devraient viser à ce que le système soit suffisamment prévisible et fiable pour permettre une compréhension des conséquences attendues de l'utilisation d'un tel système. On supprimerait les termes suivants, donc avoiding unnecessary engagement, unintended engagement, et ensuite principe de proportionnalité, de précaution, etc. dans les attaques. Les mesures d'atténuation doivent envisager les dommages causés aux civils et des précautions pour limiter les risques vis-à-vis de la ville, les dommages aux civils et les blessures infligées aux civils. En ce qui concerne le paragraphe 27, le Royaume-Uni aimerait s'exprimer en faveur de la proposition du Canada, en ce qui concerne donc les biais sur, pour motif d'ethnicité, de genre et de handicap. Et enfin, dans la même ligne de ce que je disais il y a un instant, pour le paragraphe 26, le paragraphe 28 s'achèverait après interdisciplinary perspective et inclurait donc des examens déontologiques.